Nous allons chanter ce petit chœur sous le sang, le précieux sang. Chantons-le avec foi dans la puissance du sang de Jésus. Car la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Confessons notre foi dans le sang précieux de Jésus qui nous purifie, qui nous protège. Alléluia. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le de Jésus, il est blanchi comme la neige. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Nous confessons la puissance de ton sang au milieu de nous. Jésus, nous te louons et nous t'adorons à nouveau. Il est bon d'être dans ta présence, car c'est ta présence que nous désirons et que nous honorons ce soir. Fais comme tu le voudras, Seigneur. Tout est entre tes bonnes mains d'amour. Inspire tout ce qui sera dit, conduis tout ce qui sera fait pour le bien de chacun d'entre nous, Seigneur, et même pour le bien de ceux qui sont absents. Car pour la prière, il n'y a point de distance. Pour l'action du Saint-Esprit, il n'y a point de distance. La parole de Dieu n'est point liée à un lieu. Alléluia. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Louons-le. Amour pour le Seigneur. Le Seigneur. après t'avoir béni, tu nous bénis maintenant. Et tu veux le faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Seigneur, nous sommes faibles, mais toi, tu es fort. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ton secours. Et tu l'accordes à ceux qui le demandent instant. Rends-nous attentifs à ta voix maintenant. Car tu as une parole pour chacun d'entre nous. Pour moi aussi, Seigneur, tu veux me parler alors que je parle à ton peuple. Parle à mon cœur. Merci, Jésus. Nous t'aimons. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit son nom. Le Seigneur veut certainement se glorifier encore ce soir. Chaque jour est différent avec le Seigneur. Mais quand c'est lui qui est à l'œuvre, alors c'est toujours merveilleux, n'est-ce pas? Alors qu'il dirige cette soirée comme il le veut, c'est la sienne. Il est le maître et nous sommes ses invités. Alléluia. Et regardons à lui et à lui seul ce soir. Alors que de tout mon cœur aussi je regarde à lui. Et veux littéralement disparaître devant vous et devant lui. Il faut qu'il soit le seul élevé. Alléluia. Le sujet de ce soir. Comment être délivré du complexe d'infériorité. C'est une maladie qui détruit beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas vrai? Comment être délivré du complexe d'infériorité ou de timidité? Comment être délivré de cela? C'est ce que nous allons voir ce soir. Dieu soit béni, il y a une réponse du Seigneur. Amen. Alléluia. Un beau verset que l'apôtre Paul a donné à Timothée et que nous devons tous connaître par cœur. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Mais nous allons lire à partir du verset 3. Jusqu'au verset 7, 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, jusqu'au verset 7. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Que c'est beau, n'est-ce pas? Désirant te voir pour être rempli de joie. Amen. Sommes-nous aussi contents lorsque nous voyons un frère être rempli de joie? Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Et le mot sagesse, on pourrait le traduire par tempérance ou un jugement sain, équilibré. Alors nous allons tous relire ce verset ensemble. Le voulez-vous ? Verset 7, tous ensemble. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Quelle parole d'exhortation l'apôtre donne à son enfant Timothée, en rappelant les larmes que Timothée avait. Paul voulait montrer par là combien il était sensible à son avancement spirituel, en rappelant combien la foi qui était en lui était aussi dans ses parents et arrière-parents. Il voulait encourager son disciple d'une manière ou d'une autre. On dit que la deuxième épître à Timothée est la dernière épître qu'il ait écrite. Et quand c'est la dernière lettre que nous adressons à des bien-aimés, à un bien-aimé ou à l'Église, sachant surtout les responsabilités que Timothée allait avoir après la mort de l'apôtre, alors il fallait que l'apôtre donne des bonnes paroles qui puissent littéralement délivrer le disciple Timothée de ce complexe d'infériorité et de timidité. Car il lui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous savez que nous sommes plus riches que nous ne le pensons. Bien souvent, nous demandons à Dieu des choses que nous possédons déjà. Avant de recevoir d'autres dons, savez-vous ce qu'il faut faire ? Il faut déjà ranimer le don que Dieu vous a donné. Pourquoi voulez-vous qu'il vous donne d'autres dons quand vous êtes déjà infidèle avec le don qu'il vous a donné ? Avez-vous compris ce que j'ai dit ? Alors vous serez encore plus infidèle. Et c'est encore plus grave pour vous. Nous sommes beaucoup plus riches que nous le pensons. Et Timothée était beaucoup plus riche qu'il le pensait. Il avait plus de dons qu'il ne pouvait s'imaginer. Et je crois qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous vivons dans la pauvreté alors que nous pouvons vivre dans la richesse. Nous vivons dans la misère alors que nous pouvons vivre dans l'abondance. Nous vivons dans l'esclavage alors que nous pouvons vivre dans la liberté. Nous vivons dans la timidité alors que nous pouvons vivre dans la hardiesse du Saint-Esprit. Alléluia! Bien souvent, nous demandons à Dieu des choses que nous possédons déjà. Alors ce que Dieu vous demande ce soir, c'est de ranimer le don ou les dons qu'il vous a donnés. Et s'il vous demande cela, c'est que vous pouvez le faire. Et surtout, c'est que ce complexe d'infériorité et de timidité peut littéralement éteindre, étouffer, paralyser les dons que Dieu nous donne. Vous le remarquez, c'est apparemment pas un grand péché qui a empêché Timothée de ne plus manifester ses dons. Avez-vous remarqué cela? Il n'avait absolument pas commis de péché d'une manière ou d'une autre. Et cependant, Il ne manifestait plus les dents. Donc, qu'est-ce qu'il y avait quelque chose, comme quelque chose de grave qui le paralysait encore pour empêcher de manifester cela? C'était tout simplement ce complexe d'infériorité et de timidité. Mais Dieu soit béni, il y a une réponse pour la délivrance. Et l'apôtre nous montre le chemin tout simplement. Il lui montre qu'il a reçu trois dons. Bien sûr, il lui dit de ranimer le don de Dieu qu'il a reçu. Mais en plus de cela, il lui dit, en plus même du don qu'il a reçu, il lui dit, mais t'as encore reçu trois autres dons. Alléluia. En plus des dons que vous avez, ce soir encore, vous avez trois dons supplémentaires. Quels sont ces trois dons? Voulez-vous le savoir? Alors, quel est le premier don? Un don de force, de puissance. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Dans le texte grec, c'est le mot timidité veut dire lâcheté, frayeur, infériorité, crainte. Alors l'apôtre lui dit, mais tu n'as pas reçu un esprit comme cela. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que vous ne l'avez pas. Mais qu'est-ce que vous avez reçu par contre? Mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors voilà donc les trois dons que nous allons voir maintenant. Ces trois dons vont nous libérer de ce complexe d'infériorité et de timidité. Amen. Alors, le premier don est un don de force, de puissance. Encore là, il faut savoir ce que le mot grec veut dire pour bien comprendre ce que l'apôtre voulait dire aussi à son disciple. Le mot grec ici est le mot dynamus, n'est-ce pas? On l'entend souvent. Acte 1, 8, il est dit, vous recevrez une puissance. Donc c'est le même mot, une puissance, dynamus, n'est-ce pas? Une dynamite. Vous recevrez donc une puissance. Mais il y a un deuxième sens à ce mot. D'ailleurs, certaines versions anglaises, sauf erreur, ont aussi cette expression. On peut lire, quand Jésus dit « vous recevrez une puissance, vous recevrez de la force », il est dit aussi, qu'on peut traduire dans comme cela, « vous recevrez une capacité ». Autrement dit, c'est une puissance qui nous rend capables. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Pourquoi est-ce que tu es timide? Pourquoi est-ce que tu te sens inférieur? C'est parce que tu te sens incapable. Et l'apôtre lui dit, tu as reçu un don de puissance. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons tous reçu ce don. Amen. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez reçu cette puissance. Avez-vous remarqué, je fais une petite parenthèse maintenant, que dans les Actes des apôtres, nous ne voyons à aucun endroit que les apôtres ont encore demandé la puissance. Il est dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, qu'on a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ceci est très important. Mais à aucun endroit, lorsque vous lisez les Actes des apôtres, il est dit qu'ils redemandèrent à nouveau la puissance. Nous ne voyons pas cela. Et cependant, beaucoup d'entre nous, même baptisés dans le Saint-Esprit, nous redemandons la puissance. Comme si ce que nous avons reçu n'était rien du tout. C'est pourquoi nous n'apprécions pas ce que nous avons reçu, n'est-ce pas? Nous ne réalisons pas assez ce que nous avons reçu, c'est pourquoi nous redemandons encore la même chose. Nous redemandons à Dieu ce que nous possédons déjà. Vous recevrez une capacité. Autrement dit, l'apôtre dit à Timothée, « Mon cher Timothée, tu te crois incapable, mais tu as reçu un esprit qui te rend capable. Amen. Et capable dans quel domaine? Dans trois domaines spécialement, le Saint-Esprit qui habite en nous nous rend capable. Premièrement, le Saint-Esprit qui est en nous nous rend capable d'être délivré de nos propres passions. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Amen. Beaucoup de chrétiens, spécialement les jeunes, ont de la peine à être délivrés de certaines passions parce qu'ils ne réalisent pas la capacité qu'ils ont eux-mêmes de résister au diable et d'être délivrés de leurs passions. Alors ils vont à gauche et à droite, bien sûr on est là pour prier pour eux, mais en général on prie, mais très souvent ça redevient toujours la même chose. Et il n'y a pas de délivrance profonde et réelle. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas que nous-mêmes, nous avons la capacité. Et cette capacité, c'est la capacité divine qui est plus forte que la capacité démoniaque. Amen. La capacité qui est en nous est plus forte que la capacité de l'ennemi. Il y a plusieurs niveaux de vie dans la création. Il y a la vie végétale. Il y a la vie animale qui est supérieure. Il y a la vie humaine qui est supérieure, n'est-ce pas, l'animal? Mais au-dessus de l'homme, il y a la vie angélique. Et au-dessus de la vie angélique, il y a la vie divine. Alors nous qui sommes hommes, nous avons la vie humaine en nous. Mais au-dessus de nous, il y a la vie angélique. Et Satan est aussi un ange déchu, n'est-ce pas? Mais au-dessus de la vie angélique, il y a la vie divine. Et cette vie divine, nous l'avons en nous. Et si nous l'avons en nous, nous sommes maintenant plus forts que la vie que possède l'ennemi. Il y a en nous une vie qui est par nature plus puissante que la vie de l'ennemi. Alors voilà pourquoi nous pouvons exercer notre capacité. Et s'il y a une passion qui vous tient d'une manière ou d'une autre, si vous dites « je ne peux pas être délivré, je suis incapable d'être délivré », alors là, vous dites un mensonge et vous empêchez Dieu d'agir. Comment être délivré d'une passion? Il y a deux choses à faire. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, nous combattons pendant longtemps aussi, même quelques années, j'ai lutté avec certains péchés, et un péché tout particulièrement, auquel je me sentais comme esclave. Mais Dieu soit béni, Dieu a donné la victoire. Alléluia. Je veux dire par là qu'il ne faut pas se décourager lorsque ça ne va pas toujours tout seul. Et ça n'ira pas toujours tout seul. Mais il y a deux attitudes maintenant qu'il faut avoir si nous voulons être délivrés de nos passions. Premièrement, il faut haïr cette passion. Il faut la haïr. Maintenant j'y pense, pourquoi est-ce que finalement je n'étais pas délivré de ma petite passion aussi, mais qui avait de grandes conséquences, qui me paralysait littéralement? C'est parce que dans le fond de mon cœur, ça m'intéressait encore. Oui, j'y pense maintenant, c'est bien ça dans le fond. On aime encore dans le fond de son cœur cela. Mais comme le péché lui-même est humiliant, n'est-ce pas? Alors on veut en être délivré. Uniquement à cause des conséquences, parce que c'est humiliant. On ne passe pas pour quelqu'un de bien avec ce péché. Mais dans le secret du cœur, on en savoure encore un certain quelque chose. C'est pourquoi certains d'entre nous, nous allons pour que quelqu'un prie pour nous, pour être délivrés d'une passion. Nous sommes humiliés de ce péché qui vraiment nous tourmente et nous paralyse. Et nous ne voyons pas de délivrance. Pourquoi? Parce que dans le fond de votre cœur, vous n'avez pas, une fois pour toutes, haï ce péché. Si vous voulez la délivrance, il faut haïr ce péché. Amen. Désirez à tout prix être délivré et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Au lieu de passer des heures à faire quelque chose, y a-t-il quelque chose qui vous tourmente ce soir? Nous allons prier tout à l'heure pour cela. Amen. Si vous vous approchez parce que vous avez une passion ou un lien quelconque, réfléchissez bien avant de venir. Haïssez ce péché, cette passion. Vous devez haïr ce que Dieu est. Et vous devez aimer ce que Dieu aime. Amen. Mais si de cette passion vous en avez fait votre ami, Dieu n'a promis que de nous délivrer de nos ennemis. Et si vous en avez fait votre ami, il ne peut pas vous délivrer. Ah, c'est ton ami. Mon ennemi est ton ami. Eh bien, je ne peux pas te délivrer. Mon ennemi doit être aussi ton ennemi. Mais nous avons la capacité de haïr ce péché. Amen. Et deuxièmement, que faut-il faire une fois que nous avons haï ce péché? Alors, il ne faut pas toujours compter sur les autres aussi pour dire, allez, 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 chassez un petit peu, délivrez-moi. Allez un peu plus fort, là. Et on court après l'un, et on court après l'autre. Et on dit, celui-là, il n'a pas de puissance. Il n'y a rien qui s'est passé avec celui-là. J'espère qu'avec l'autre, ça ira un peu mieux. Et l'autre, n'en parlons pas. Il n'a même pas voulu prier pour moi. Et on est là en train de vagabonder en attendant que quelqu'un fasse quelque chose alors que Dieu nous demande de faire quelque chose nous-mêmes. Amen. Bien sûr, les pasteurs sont là, les responsables sont là pour prier avec vous. Cela est vrai. Mais un responsable et un pasteur ne peut pas prier pour vous avec efficacité si dans le fond de votre cœur vous ne collaborez pas avec lui. Et quand le pasteur dit au nom de Jésus, va-t'en, si dans le fond de votre cœur vous dites, oh là là là, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, seulement. Pas trop vite, pas trop vite. Il est en train de dire, va-t'en, va-t'en, mais moi, Seigneur, dans mon cœur, non, tu peux. Ouais, un petit peu à la fois. Comment voulez-vous ça va? Mais il n'y a pas de collaboration. Vous savez, là, on a vu le plus de délivrance, là, on a vu le plus de guérison, c'est quand on prie pour la personne. Il y a une collaboration extraordinaire. Amen. Quand je dis « Go, va-t'en !» La personne « Va-t'en !» Ça va en même temps. Et là où j'ai vu encore le plus de résultats, c'est que non seulement lorsque moi je dis « Va-t'en !» et que le malade dit « Va-t'en !» mais quand l'église, l'auditoire dit aussi « Va-t'en !» Alléluia. Alors ça c'est encore plus extraordinaire. C'est ce qu'on a vécu hier soir, vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pourquoi Dieu nous a bénis. Quand tous, comme une chorale, nous nous opposons à l'ennemi, je vous assure, nous verrons de grandes choses. Mais tu as reçu un esprit de puissance, de force, autrement dit un esprit qui te rend capable. Et cette capacité, elle est divine. Et devant cette capacité, rien ne peut tenir. Mais premièrement, tu dois haïr, et deuxièmement, tu dois toi-même résister au diable. Et tu dois lui dire maintenant, tu dois partir. Je ne veux plus de toi. Je veux être libre pour toujours. Alors là, quelque chose va se passer. Un esprit qui nous rend capables. Rendez grâce au Père de ce qu'il nous a rendus capables. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Ça fuse un peu ce soir. Hein? Amen. Il nous donne la capacité d'être délivrés de nos passions. Et je sais que plusieurs d'entre nous, combien d'entre nous, on est tous plus ou moins concernés, n'est-ce pas? Vous savez, c'est pas une humiliation d'avoir de tels problèmes. J'aimerais vous dire cela maintenant. Ne pensez pas parce que vous devez être délivré de quelque chose que vous êtes quelqu'un qu'on doit mépriser. Et malheureusement, beaucoup ont vu ces gens comme cela. Ah, t'as un lien, toi, t'es un pauvre type. T'as une passion comme ça. Ben dis donc, alors c'est pas beau, hein. Chers amis, n'ayons pas honte de cela. Jésus veut nous délivrer. On a tous des problèmes d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas vrai? Il n'y en a aucun qui peut dire « Moi, je suis plus pur que toi, plus digne que toi. » Aucun peut mépriser son frère d'une manière ou d'une autre. Si toi, tu n'as pas le lien, ou l'oppression, ou la tentation, ou la passion que l'autre possède, tu as peut-être autre chose qui peut-être aux yeux de Dieu est encore plus abominable, n'est-ce pas vrai? Donc il n'y a aucune honte à avoir. L'important est d'être délivré. Mais ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force. Donc un esprit qui nous rend capables d'être délivrés de nos passions. Deuxièmement, une capacité de pardonner les autres. Cela, je le vois, beaucoup de gens pensent que ils ne peuvent pas pardonner. Et on se cache derrière cela en disant « je ne peux pas pardonner ». Alors qu'on devrait dire « je ne veux pas pardonner ». Alors laissez-moi vous dire une chose, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous avez la capacité de pardonner. Amen. Et comment est-ce qu'on pardonne quelqu'un? C'est tout simplement une décision de la volonté. Ce n'est pas un acte émotionnel ou sentimental. Oh, je sens rien du tout, surtout pas ce soir. Oh là là, je ne suis pas dans des sentiments qui vont me permettre de pardonner. C'est justement le contraire. Ça bouillonne un peu trop ce soir. Alors, je ne peux pas pardonner. Mais le pardon n'est pas une question de sentiment. Le pardon est une décision de la volonté. Et vous avez la capacité de prendre cette décision et de dire devant le Seigneur, « Seigneur Jésus, tu m'as donné la capacité de pardonner à telle personne. Maintenant, je le fais en ton nom. Je pardonne à telle personne au nom de Jésus et pour toujours. Amen. » Ne dites jamais que vous ne pouvez pas pardonner. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je connais mon propre cœur, le vôtre est comme le mien. Mais quand je me sermonne un petit peu, je dis « Sam, arrête un petit peu, hein. Ne commence pas un petit peu à te justifier, avoir un peu trop pitié de toi. Écoute un peu, tu dois pardonner à moi, c'est tout. » Ah, je me parle très sévèrement. Hein. Il n'y a pas d'autre chemin, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Et du Seigneur, oui, d'accord, c'est pas le moment de discuter avec toi. Je pardonne, et c'est terminé. Nous avons la capacité, le croyez-vous? Si vous faites cet acte de foi, vous verrez le Saint-Esprit venir toujours à votre secours pour vous aider. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas reçu le secours de l'Esprit de Dieu lorsqu'il commence à pardonner. Au contraire, le Saint-Esprit est justement donné pour cela, pour que l'on puisse pardonner. Alléluia! Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne t'aide pas? Parce que tu ne veux pas pardonner. Mais le Saint-Esprit t'aidera toujours lorsque tu veux pardonner. Il t'en donnera la capacité et la joie, alléluia. Capacité d'être délivré de nos passions. Capacité de pardonner. Et une troisième capacité Dieu nous donne, c'est de manifester les dons spirituels. C'était le problème de Timothée. Et l'apôtre voulait lui dire, mais Timothée, ranime le don qui est en toi. Tu peux manifester ces dons. Pendant longtemps, moi aussi, je me culpabilisais. Et je disais, jamais un jour je pourrais manifester des dons spirituels. Jamais un jour je pourrais prier pour des malades. Jamais un jour je pourrais prophétiser. Je pensais que je ne pouvais pas le faire. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Et cependant, beaucoup d'entre nous, nous croyons ces choses. Si vous voulez que les dons se manifestent dans votre vie, il faut déjà croire que vous pouvez les manifester. Amen. Il faut déjà croire. Si vous n'y croyez pas, il n'y a rien qui se passera. Et vous avez la capacité de manifester les dons. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas quand Dieu dit que vous pouvez. Je répète, là, vous n'avez pas bien compris. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas quand Dieu dit que vous pouvez. Alléluia. Vous ne croyez pas que ce don est extraordinaire? Un don de force? Autrement dit, un don qui nous rend capables d'être délivrés de nos passions, de pardonner aux autres et de manifester les dons spirituels? Oh, votre timidité sera pulvérisée. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous donne? Oh, ma petite feuille n'est pas tombée par terre. Heureusement que je ne suis pas attaché à river là-dessus, parce qu'autrement je serais perdu. Hein. Un deuxième don maintenant. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, ensuite d'amour. Un deuxième don que Dieu nous a donné. Il nous l'a donné, c'est à vous. Ce don est un don d'amour. Et là, dans le texte grec, c'est le mot « agapé ». Agapé qui est l'expression de l'amour divin, un amour qui se manifeste toujours au travers du sacrifice, du renoncement à soi-même, pour bénir l'autre. Pourquoi est-ce que Timothée avait ce complexe d'infériorité et de timidité? Pourquoi est-ce que Timothée avait de la peine à aimer les autres? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, nous avons de la peine à aimer nos frères, nos sœurs, nos amis, nos voisins? Pourquoi est-ce que nous avons de la peine? Je vais vous dire une chose. C'est parce que nous avons de la peine à croire que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et vous ne pouvez jamais aimer les autres réellement tant que vous n'êtes pas conscient vous-même que vous êtes aimé de Dieu. Amen. Voilà donc ce que chacun d'entre nous, nous devons comprendre. Nous avons reçu ce don d'amour. Autrement dit, nous sommes tous aimés du Seigneur. Et en plus de ça, tels que nous sommes. Amen. Vous avez dû briller à ses yeux. Et quand quelqu'un sait qu'il est aimé, chouchouté, alors il n'a pas de peine à aller aimer les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est très difficile à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre quand lui-même ne se sent pas aimé. Et vous savez, quand Dieu nous aime, croyez-vous qu'il nous aime seulement lorsque nous sommes gentils? Beaucoup d'entre nous, nous croyons cela. Mais Dieu nous aime différemment. Vous savez ce que j'ai appris ces derniers mois? En lisant une certaine lecture concernant l'éducation des enfants, l'auteur disait, avez-vous déjà dit à vos enfants, est-ce que vous allez les aimer quand ils sont gentils? Alors, j'ai tout de suite réfléchi, je dis, oh, mais bien sûr, oh là là, alors, bien sûr que j'ai dit à mes enfants que je les aimais quand ils étaient gentils. Alors j'étais bien content parce que j'avais bien accompli mon travail de papa. Mais je continue ma lecture, et le prédicateur, l'auteur dit, mais avez-vous aussi dit à vos enfants que vous les aimez même lorsqu'ils ne sont pas gentils? Ouh là là, alors là, c'était une autre histoire. Il y a eu comme un froid en moi, et je me suis dit, Sam, tu n'as jamais dit cela à tes enfants. Jamais dit. Alors, j'ai commencé à réfléchir très sérieusement, et j'ai demandé pardon au Seigneur de ne pas avoir fait ce qu'il voulait que je fasse. Et j'ai commencé l'expérience avec mes enfants. Je parle de Déborah parce que je me souviens le plus avec Déborah. Tout de suite après, j'ai été voir Déborah. Je voulais tout de suite mettre en pratique quelque chose. Alors j'ai été la voir. Alors ma petite Déborah, viens voir ici. Tu sais que le papa, il t'aime quand t'es gentil. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, elle était contente. Tu sais que le papa t'aime quand t'es gentil. Oui, 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 bien sûr. Alors après, attends, c'était le test qui allait venir après. Et maintenant, écoute-moi, Déborah. Écoute bien. Écoute ce que je vais te dire.
Oui, d'accord.
Écoute. Oui, oui, eh bien, parle. Écoute bien ce que je vais te dire. Mais parle. Tu écoutes ce que je vais te dire. Parle, s'il te plaît. Je voulais que ça pénètre. Et j'ai dit, Déborah, est-ce que tu crois que le papa t'aime quand tu n'es pas gentil? Alors là, un silence complet. Elle a baissé les yeux, elle a levé les yeux, elle savait plus ce qu'il fallait faire. Mais en voyant son attitude, j'ai tout de suite vu ma mauvaise attitude. Et je vous assure, dans le fond de mon cœur, à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément attristé moi-même et qui était une grande faille en tant que papa qui devait éduquer ses enfants. J'ai vu que mon enfant n'était pas convaincu que je l'aimais quand il n'était pas gentil. Et cela a profondément attristé mon cœur. Alors je me suis tout de suite repris. J'ai dit, Déborah, écoute, je me suis rattrapé depuis ce temps-là, avec tous les quatre. Je leur casse la tête un peu avec ça, mais je pense que c'est bien rentré. J'ai dit, Déborah, écoute, tu dois savoir quelque chose. Quoi, qu'est-ce que c'est? Que ton papa t'aime quand tu es gentil et pas gentil. Quand t'es pas gentil, ton papa, il t'aime la même chose. Ah oui, c'est vrai. Alors elle était contente. Alors je lui dis, tu n'oublieras jamais cela, jamais. Oui, d'accord. Alors une heure après, je la voyais. Salut Déborah, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, je ne me rappelle plus. Ah, j'ai dit, il faut que je recommence à zéro maintenant. Je t'ai dit que ton papa, il t'aimait quand t'étais gentil, pas gentil. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ah oui, c'est bien. Oui. Merci. Une heure après, qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que t'as oublié? Ah non, j'ai pas oublié. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, je me rappelle plus. Ah ben là, je me suis dit, Sam, t'as encore du travail. Ça rentre pas si facilement que ça. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Que le papa, il t'aime quand t'es gentil et pas gentil. Ah oui, c'est vrai. Alors, quelques temps après, je répète, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, je sais, maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'aimes toujours. Quand je suis gentil ou pas gentil, tu m'aimes toujours. Alors, je lui dis, ah, c'est bien comme ça, hein? T'es bien, t'es contente d'avoir un papa comme ça, qui t'aime tout le temps. Gentil, pas gentil, tu fais des bêtises, tu fais n'importe quoi, je t'aime quand même. Bien sûr, je n'aime pas des bêtises, tu fais des bêtises, tu dois demander pardon. Mais moi, je t'aime tout le temps. Et le Seigneur, c'est la même chose. Gentil ou pas gentil, je t'aime. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Gentil ou pas gentil, Dieu vous aime. Et je crois que ce ne sont pas seulement les petits-enfants qui doivent entendre cela. Si vous ne l'avez pas fait à vos enfants, il est temps de commencer. Il est temps de commencer. Mais certaines grandes personnes ont besoin d'entendre cela aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais entendu dans leur enfance. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Pourquoi est-ce que nous avons de la peine à croire que Dieu nous aime lorsque... Que Dieu ne nous aime pas. Que Dieu nous aime lorsque nous ne sommes pas gentils. Pourquoi est-ce que nous avons de la peine à croire cela? Parce que nos parents ne nous ont jamais montré de l'affection et ne nous ont jamais dit qu'ils nous aimaient même lorsqu'on n'était pas gentil. Voilà pourquoi il y a en nous comme une déchirure, comme un mal profond et nous avons de la peine de croire que Dieu nous aime. Qu'on soit gentil, on y croit. Mais qu'on ne soit pas gentil, comme Timothée, inférieur, timide, qu'on ait fait des erreurs, des bêtises, alors tout de suite nous nous culpabilisons et nous disons « Dieu ne m'aime plus, certainement Dieu ne m'aime pas ». Et à cause de cela, nous passons par des moments extrêmement difficiles. À cause de cela, notre communion avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Il voudrait nous chouchouter beaucoup plus que nous le pensons. Alléluia! Il voudrait nous faire du bien beaucoup plus de fois que nous le voulons. Il soupire après toi et il te dit ce soir qu'il t'aime quand tu es gentil et pas gentil. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais en tout cas, ça me fait du bien, moi. Amen. Tel que nous sommes, il nous aime. Voilà, Timothée, tu dois savoir cela. Le don que tu as reçu, c'est que Dieu t'aime tout le temps. quel que soit ton état. Sache une chose, c'est que l'amour de Dieu est invariable à ton égard. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais pour lui. Mais l'amour de Dieu dépend de ce qu'il a fait pour nous. Que son nom soit béni. Amen.
Le croyez-vous?
Amen. Alléluia.
Quel don merveilleux, n'est-ce pas, de cet amour qui nous aime. Toujours gentil ou pas gentil.
Et je vais vous donner quelque chose de nouveau. Je vous aime aussi quand vous êtes gentil ou pas gentil. C'est pas mal ça, vous trouvez pas?
Et un troisième don merveilleux maintenant. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot sagesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, veut dire prudence, jugement sain ou tempérance. C'est ce qu'il manquait à Timothée, n'est-ce pas? Il n'avait pas un jugement sain. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas ce qu'il possédait. Il ne connaissait pas qui était son Dieu. Il ne connaissait même pas l'apôtre Paul comme il le fallait. C'est pourquoi l'apôtre Paul est obligé d'ouvrir son cœur comme un père ouvre son cœur à son enfant. Pour lui dire combien il l'aimait. Et alors tout cela a commencé à équilibrer un petit peu les pensées de Timothée. Et Dieu lui dit, Paul lui dit, tu as aussi un jugement saint. Tu as reçu un esprit de tempérance. Autrement dit, un esprit qui nous rend équilibrés. Dans quel domaine nous devons être équilibrés? Et je termine par cela. Dans quel domaine devons-nous être équilibrés pour être délivrés de nos culpabilités, d'infériorité ou de timidité? Dans trois domaines. Nous devons être tempérants dans le domaine de nos pensées. Timothée avait des problèmes parce que dans le domaine de ses pensées, il ne se contrôlait pas. Il acceptait absolument toute pensée négative que le diable mettait dans ses pensées. Et à cause de cela, il était tourmenté et craintif. Est-ce qu'il y a un équilibre dans vos pensées? Est-ce que vous rejetez les pensées qui viennent de l'ennemi? Pour beaucoup d'entre nous, dans nos pensées, nous ne faisons absolument aucun triage. Absolument aucun triage. Toutes les pensées viennent en nous et nous les nourrissons et nous les acceptons. Et nous sommes étonnés d'être craintifs, de se sentir inférieurs, incapables de faire quoi que ce soit. Vous devez vous contrôler dans ce domaine-là. Et Dieu vous en a donné la puissance et la capacité. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut nourrir dans ces pensées? Philippiens 4, 8 nous dit ceci. Un beau passage à méditer très souvent. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous devez donc contrôler vos pensées. Vous pouvez les contrôler. Si vous avez des pensées négatives ou mauvaises, c'est parce que vous le voulez bien. C'est une habitude que nous devons avoir de refouler systématiquement toute pensée qui ne glorifie pas Dieu. Et vous pouvez le faire et vous devez le faire. Un autre domaine où nous devons être tempérants, équilibrés, c'est dans le domaine de nos sentiments. Combien d'entre nous, nous sommes liés par nos sentiments, il n'y a pas d'équilibre. Un jour nous sommes en haut, le lendemain nous sommes en bas, n'est-ce pas vrai? Oh, hier soir, frère, c'était formidable la réunion. Ce soir, alors, je me sens vraiment dans un trou. Je suis vraiment dans un trou, frère, ce soir. Je me sens pas bien du tout ce soir, pas bien. Ah bon?
Nous voyons par là une personne qui est conduite par ses sentiments. On a demandé un jour à un serviteur de Dieu, Wigglesworth, un homme de Dieu qui avait une puissance extraordinaire, un Anglais, avait de grands miracles dans son ministère. Et un jour, un autre serviteur de Dieu lui a demandé, « Mais pourquoi êtes-vous toujours joyeux? Pourquoi est-ce que vous avez toujours cette joie en vous ?» Alors, ce prédicateur a répondu, « Je ne me demande jamais comment je me sens. » Vous avez bien compris ce que je dis? Il ne se tâtait jamais. Il ne se demandait jamais comment il se sentait. Beaucoup d'entre nous, quand on se lève le matin, oh, oh, oh! Oh là là, regarde, il fait encore gris aujourd'hui. Ah, la journée est gâchée. La journée est gâchée. Regarde. Oh là là, ah non, non, c'est fini. Non, je sens que la journée est gâchée. Ça, je sens qu'elle est gâchée, Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de jugement sain. Nous sommes liés par nos sentiments au lieu de les dominer. Sentiment ou pas sentiment, apprenons à louer le Seigneur et à marcher avec foi derrière lui. Amen. Et pour ceux qui ne le savent pas, si vous vivez de sentiments, le senti ment toujours. C'est un petit proverbe que j'ai trouvé, moi. Alors, si vous ne le saviez pas, vous le saurez encore. Le senti ment toujours. Et pour terminer, un autre domaine où nous devons être tempérants. Premièrement, dans nos pensées. Deuxièmement, dans nos sentiments. Et troisièmement, dans nos paroles. Certains d'entre nous, il n'y a aucun contrôle dans ce domaine-là. Quand on commence à parler avec certaines personnes, on a l'impression que c'est un disque de 75 tours qui commence à tourner. Et vous avez de la peine à vous en aller. Vous avez dit, oui, d'accord. Oui, mais tu sais, je dois... Mais tu sais, maintenant, je dois partir parce que je dois faire... Mais tu sais, maintenant, on m'attend... Oui, mais attends. Aucun contrôle, aucun équilibre. Nous sommes liés par les paroles de notre bouche. La langue du sage apporte la guérison, mais elle parle légèrement et blesse comme un glaive. C'est pourquoi nous ne devons plus être habitués à des paroles négatives. Combien d'entre vous, vous êtes liés par vos propres paroles? Constamment, votre langage est « Oh, je ne vois rien du tout, je ne m'en sortirai pas. Oh, tout le monde m'en veut, personne ne m'aime, tout le monde est contre moi. » Même le Seigneur, de temps en temps. « Seigneur, je m'en sortirai jamais. » Vous êtes liés par les paroles de votre bouche. Commencez un peu à changer votre langage. Mettez dans votre bouche les paroles mêmes de Dieu. Et ces paroles vous libéreront et vous transformeront. Ceci est plus important que vous le pensez. Est-ce qu'il y a de la tempérance dans vos paroles? La Bible dit que l'homme soit prompt à écouter et lent à parler. Avez-vous remarqué pourquoi nous avons deux oreilles et seulement une bouche? C'est parce que nous devons écouter deux fois plus que nous parlons. Il y en a qui parlent deux fois plus qu'ils n'écoutent. Après avoir parlé une heure, ils tentent de... qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Mais il est temps peut-être que tu écoutes. Nous avons deux oreilles pour écouter deux fois plus que nous ne parlons. Ça, c'est l'équilibre. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à chacun d'entre nous. Et nous expérimenterons une manifestation des dons spirituels dans notre vie. Nous ranimerons en nous les dons de Dieu. En étant ranimés nous-mêmes, nous pourrons ranimer les autres au lieu de les éteindre. Amen. Alors, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, donc, qui te rend capable. Un esprit d'amour qui te dit que tu es aimé de lui. Gentil ou pas gentil. C'est pourquoi tu peux aimer les autres qui sont gentils ou pas gentils. Amen. Et un esprit de sagesse, donc de tempérance, dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes paroles. Si nous faisons cela,
Un miracle va se produire, n'est-ce pas vrai? Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Tu as pourvu pour nous délivrer de ce complexe de timidité et d'infériorité. Ce que le monde ne peut pas nous donner, Jésus nous le donne gratuitement. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Vous êtes plus libre que vous le pensez. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Si vous savez mettre en pratique ce que Dieu vous a déjà donné, pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Amen. Courbons-nous quelques instants dans la prière. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu nous as donné un esprit qui nous rend capables d'être délivrés de nos passions, de pardonner à nos ennemis et de manifester les dons spirituels. Tu nous as donné un esprit d'amour qui nous dit que nous sommes aimés en tout temps, même ce que nos parents ne nous ont pas donné. Seigneur, toi, tu le remplaces. Et j'aime confesser ce soir que tu m'aimes, Seigneur. Gentil ou pas gentil, tu m'aimes, Seigneur. C'est ainsi que je peux aussi aimer les autres, sans les craindre, sans les fuir. Parce que rassasié moi-même de ton amour, je peux rassasier les autres de ton amour. Un esprit de sagesse, de tempérance, dans nos pensées, nos sentiments et nos paroles. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné ce soir et que nous possédons. Nous n'allons pas te le demander, comme l'apôtre dit, nous devons ranimer ce que tu nous as donné. Ainsi, ayons un petit moment de prière maintenant et disons: Seigneur, ce soir je ranime le don que tu m'as donné. Plus les autres dons encore en plus. Je ne savais pas que j'étais aussi riche, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia.